Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Aujourd'hui, comme je dis souvent, est un grand jour. Nous recevons un cinéaste dont l'univers me captive depuis déjà bien longtemps. Un créateur au sens pur du terme qui a littéralement inventé un monde bizarre, incongru, dérangeant et magnifique, parfois macabre, parfois rigolo. Un créateur à l'imagination débordante qui a réuni autour de lui une tribu d'acteurs, de décorateurs, de musiciens qui lui vouent un culte sans faille. Non, je ne parle pas de Benoît Jacquot, mais du légendaire fabricant de légendes Tim Burton. Grâce à Tim Burton, depuis des années, j'ai eu peur, j'ai ri, j'ai fait de l'huile, j'ai été surpris, étonné. Et cet homme-là a mille fois réussi à émouvoir le petit garçon qui subsiste en moi, au fond du couloir, dernière porte à droite, tout en faisant frémir le pervers pélimorphe qui se tapit, lui, au fond du même couloir, mais à gauche, juste derrière le KGB. Tim Burton n'est pas très à l'aise dans le monde réel, celui où l'on réévalue les montants compensatoires. Il leur préfère l'autre monde, celui qu'il s'invente au jour le jour, plein de monstres, d'animaux bizarres, de freaks, de clairs obscurs, d'angles morts et de personnages plus larges que la vie. Tiens, comme des petits éléphants avec des grandes oreilles ou des femmes fatales au regard magnétique. Ça tombe bien, il a fait tourner les deux dans Dumbo, le très libre remake du classique de Walt Disney. C'est la seconde, la femme fatale, pas le petit éléphant, que nous recevrons en deuxième partie. L'actrice qui affole les boussoles et fait perdre le nord à James Bond, comme elle me fait perdre à moi mon sang-froid. La troublante, retenez-moi, sinon je ne réponds plus de rien. Eva Green. Allez, hop hop hop, c'est parti.
France Inter. Pop hop hop. Antoine de Caunes.
À mes côtés, celle qui avait 10 ans.
Je suis votre bromure, hein. De toute évidence.
Celle qui avait 10 ans pour la sortie de Beetlejuice, Charline Roux. Bonjour Charline.
Bonjour, c'est faux, je n'étais pas née.
C'est pour cette raison que vous portez toujours des chaussettes.
Absolument.
Au menu de Pop Pop Pop, vous l'aurez compris, nous recevons donc un monstre sacré de la pop culture.
Mes très chers compatriotes,
tout ce qui est dans cette salle est touristique. Même moi, je le suis.
Me. Okay.
Alice, you're terribly late, you know. Naughty.
Nous lui devons Pee-wee Herman, Batman, Edward aux mains d'argent, Sleepy Hollow, Big Fish, le remake de Charlie et la chocolaterie, Alice au Pays des Merveilles et tant d'autres. Tim Burton est l'invité exceptionnel de Pop Pop Pop. Nous sommes donc allés en Burtonie avec Charline Roux dans l'univers fantastique du réalisateur pour parler avec lui de Dumbo, son nouveau film qui sort demain et donc en cerise sur le gâteau. Et quelle cerise et quel gâteau, celle qui nous rend gaga Eva Green.
Calmez-vous, Antoine.
Voici donc le menu 5 étoiles de ce Pop 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 du jour et nous ferons un détour par la planète pop de Ronan Crowe pour parler de la série The OA.
The OA,
donc, merci Charline, dont la très attendue saison 2 est arrivée sur Netflix. Mais avant ça, quand Tim Burton est au micro de Pop Pop, on lui pose évidemment une question qui fouette encore plus que la laine de Beetlejuice, une question encore plus aiguisée que les ciseaux d'Edward aux mains d'argent, et une question que je pose avec le même sourire flippant que Jack Nicholson en Joker. Cette question, c'est...
Pour vous, c'est quoi la pop culture, Tim Burton ?
Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses Tim Burtiennes, Eva Greenescente ou Dumbonesque. Et parmi mes préférées, il y a celle de Charlie Bucket de Charlie et la chocolaterie, alias Freddy Highmore.
Pour moi, c'est les films de Tim Burton, en fait. Pour moi, c'est ses films. Il a élevé un petit peu le genre.
Et pour vous, Tim Burton, c'est quoi la pop culture ?
On dirait un prêtre.
My whole life.
Mais c'est ma vie. J'ai grandi. Je suis né en 58, donc j'ai grandi dans cette époque de pop culture, oui. Avec la télévision nulle et toutes ces séries, tous ces trucs-là, ouais, c'était ça.
On parle de pop, de culture, de pop culture, d'oreilles décollées et de... Dumbo avec Tim Burton juste après un morceau du groupe français Elephants. Ben oui, forcément, avant de parler de Dumbo, ce morceau, c'est...
C'est astucieux.
Merci Charline, Maryland.
Pas d'urgence, mais j'atterris pas. Et plus j'y pense, plus je plane, ne suis plus moi. Viens me chercher. Tu hésites, je me passionne pour ton cœur qui gravite et qui tâtonne. C'est fou comme les heures font courir la première.
d'une mort fatale. Contrôle tout vent, je te kidnappe en rafale. Si t'es ok, je suis raisonnable.
Maryland, c'est un morceau signé du groupe nantais Elephant. Ça tombe bien car il va être question de Dumbo avec Tim Burton dans cette émission. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et Charline, nous sommes en mars, pas vrai?
Oui.
Eh bien j'ai l'impression que Mars attaque, je me trompe? Non, mais me laissez pas comme ça, Charline. Enchaînez okay. Avec le pop-portrait. Enfin, soyez bonne camarade, quoi, enfin.
D'accord.
Bon, ah oui, alors un pop-portrait, c'est évidemment le portrait de Tim, mais... Et il est donc signé par vous, Charline.
Aujourd'hui, nous recevons l'homme qui parle et filme le mieux avec moult tendresse et force poésie, des chelous, des cassés, des carrément bizarres ou légèrement à part. Son premier héros perché passait 1h30 sur l'écran à chercher son vélo volé, ça s'appelait Pee-wee. Celui d'après n'était pas très frais et apparaissait si on prononçait 3 fois son nom, Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Puis arriva par 2 fois l'homme chauve-souris à qui il opposera un Joker de génie, absolument. Puis un pingouin dément et une Catwoman des plus sexy avant d'inventer un héros romantique, innocent aux mains d'argent. Tim Burton s'est aussi intéressé aux plus mauvais des réalisateur, Ed Wood, aux extraterrestres belliqueux dans Mars Attacks, au cavalier sans tête dans Sleepy Hollow, un de mes préférés, à la planète des singes, puis à un menteur grandiose et hyper attachant dans le sublime Big Fish. Il s'intéresse aussi aux enfants, en adaptant Charlie et la chocolaterie, Alice au pays des merveilles, Miss Peregrine et les enfants particuliers, Corpse Bride, alors oui, s'intéresser aux mômes, ça veut pas dire ne pas les faire flipper. Notre invité est même responsable d'une comédie musicale trash sur un barbier bouché, Sweeney Todd. Bref, si vous aussi vous sentez à part, restez.
Restez avec nous, hein, monsieur Beetlejuice. Ouais. Bien, continuons l'exploration de l'univers fantastique de Tim Burton avec sa pop-liste. Nous lui avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Hop. Quel est par exemple votre film préféré?
C'est très dur pour moi. Yeah. Il y en a un qui revient dans ma tête, ma fille aussi l'adore, c'est La guerre des Gargantua. Parce que c'est, on l'a vu ensemble, voilà. Une bataille de monstres. Le vert, le marron, c'est super excitant toujours.
Votre livre de référence?
Je devrais dire la Bible, hein. Je la lis dans tous les chambres d'hôtel. Mais non. Les livres, pour moi, un peu, c'est un livre de Dr. Seuss, One Fish, Two Fish, Red Fish, qui est un livre qui a vraiment tout commencé pour moi. Ça m'a intéressé dans les rimes. Les rimes m'intéressaient, les idées, les concepts.
Ok. Votre série télé préférée?
That's hard. They're all hard. C'est difficile. Hein. J'aime Outer Limits, Twilight Zone. Mais c'est The Beverly Hillbillies que je préfère. Come and listen to my story about a man named Jed. The poor mountaineer barely kept his family fed. And then one day he was shooting at some food. And up through the ground come a bubbling crew. It's weird. Parce que c'est dingue, ces Barjots. C'est ces séries des années 60, au début des années 60. Tout le monde semblait complètement drogué à l'écran. C'est un peu ces Barjots.
Et Twilight Zone, revu et corrigé par Jordan Peele, qui arrive bientôt. Ça vous intrigue, ça vous intéresse?
Oui, il est super. Oui, il va en faire quelque chose de bien, oui.
Et pour finir, une chanson?
Quelque chose de Mary Poppins, peut-être. Non.
Favorite song. See, boy, I always blank out at this.
Je sais jamais répondre à ça.
You know what I was listening to the other day?
L'autre jour, j'écoutais la chanson de No Mobile. Écoutez-la. C'est un air qui vraiment vous attrape.
Mais vous avez démarré avec la scène punk à Los Angeles.
I love the Ramones.
Ah oui, les Ramones, j'adorais.
I loved, that era, stuff
cette époque,
yeah, Ramones were one of my favorites.
Les Ramones, c'était vraiment mes préférés.
The one that comes to my mind right now is I Want to Be Sedated.
I Want to Be Sedated, c'est le titre qui me vient à l'esprit là, maintenant.
C'est un message?
À vous de voir.
I Wanna Be Sedated des Ramones pour conclure en beauté cette pop liste des plus étranges. Tim Burton signe un nouveau film, c'est un événement pop et il est donc dans Pop Pop Pop. La suite de l'entretien avec Tim Burton, c'est juste après un morceau d'Arcade Fire, Creature Comfort. Creature Comfort, c'est un morceau du groupe de rock canadien Arcade Fire. C'est un groupe présent dans la BO du film Dumbo, dont nous allons parler avec Tim Burton, notre invité exceptionnel. Et nous écouterons un extrait de ce morceau tout à l'heure. Mais pour replonger dans l'univers de Tim Burton, il suffit de faire un pop. Vous êtes prête, Charline?
Oui.
Écoutez ça. La première fois que vous avez vu Dumbo au cinéma, est-ce que vous avez éclaté en sanglots ou bien est-ce que vous vous êtes dit « Waouh, un éléphant qui vole !» Mais personne ne m'avait dit que ça pouvait exister.
Well, I don't remember the exact moment I saw Dumbo.
Je ne me rappelle pas de la première fois que j'ai vu Dumbo, précisément. Mais je me rappelle de tous ces premiers Disney, comme un rêve. Ils avaient un impact sur moi. Et si j'aime Dumbo, c'est parce que ça me rappelle moi-même, quelque part, un personnage étrange, bizarre, quelqu'un dont on se moque, quelqu'un qui est différent des autres.
It's just something that I felt very, very close to.
Je me sens naturellement proche de ce personnage. Un personnage beau, simple. Et dont l'image, le symbole d'un éléphant qui vole, c'est que je trouve ça tellement beau.
Dumbo, c'est la version pachydermique du vilain petit canard. Et plus généralement, une histoire de rejet pour cause de différence. En dehors des oreilles, quel point commun avez-vous avec Dumbo?
Moi. La raison pour laquelle j'ai voulu faire le film, c'est que cet éléphant un peu bizarre me rappelait ma propre histoire, de moi qui travaillais avec Disney. C'est comme ma famille. Dumbo et moi, on est très proches là-dessus. C'est une histoire ancienne. Et on m'a toujours traité comme quelqu'un chez Disney, quelqu'un d'un peu bizarre, d'étrange, mais qui fait quand même partie de la famille, quelque part. Et les thèmes de la famille, et sous toutes ces formes étranges, c'est quelque chose qui me parle.
Charline est très émotive. Quand on a vu le film ensemble hier soir, voilà comment elle a réagi.
Si je vous dis que j'ai pleuré deux fois pendant le film, est-ce que vous estimez que votre contrat est rempli?
Oui, mais ça, c'est Dumbo. C'est un des films de Disney les plus simples, la vieille version. Parce que c'est un personnage si simple, si pur, c'est comme un miroir, on peut se projeter émotionnellement en lui. C'est comme dans une belle fable, c'était ça les films de Disney, c'était des belles fables. J'espère. Parce que pleurer, rire, c'est une réaction et je trouve que tout est positif.
Alors, ceci dit, moi je me suis identifié à la maman éléphant.
Voilà, c'est ça. C'est une histoire très tellement simple, primaire quelque part. Vous pouvez le voir sous un point de vue et moi je le vois comme l'histoire d'un dingo, d'un bizarre qui travaille avec Disney. Chacun peut se retrouver quelque part.
Est-ce que vous prenez un plaisir particulier à faire pleurer le public quand même?
Comme je vous l'ai dit, les films c'est quelque chose qui vous touche vraiment, personnellement, intimement. Ça vous fait pleurer, ça vous fait rire. Et ça, c'est les films Disney depuis le début. C'est une combinaison de tous ces cinémas, de toutes ces émotions-là dans un seul film.
Dumbo, c'est donc cet éléphanteau volant qui va transformer son handicap en force. Et Dumbo, vu par Tim Burton, ça donne ça.
All Dumbo wants is his mama. Do you want Dumbo to be happy?
I want my animals to be mine. Baby,
you're mine. Who's gonna be willing to help me?
Fly, Dumbo. Fly.
Vous avez choisi d'aborder l'histoire de l'éléphanteau par le biais et le regard de la famille Holt, un papa vétéran de guerre et deux enfants plus malins que les grands. À l'inverse du film d'animation raconté du point de vue de Dumbo, pourquoi ce glissement, ce changement de prisme?
C'est pas tellement un changement, je trouve, un petit peu, mais pas tant que ça. On voulait pas faire un remake du film, du dessin animé original. Il y avait des personnages, des animaux qui parlaient, tout ça, on voulait pas revenir à ça. Et ce que j'ai aimé dans le scénario, c'est que l'histoire humaine est un parallèle à l'histoire de Dumbo lui-même. Les gamins et les enfants, ils ont perdu leur mère, le père, il a perdu le bras à la guerre, il a perdu donc sa femme. Il y a tous ces personnages qui, quelque part, sont un reflet de l'histoire de Dumbo. J'ai aimé que c'était une façon d'exprimer ses émotions, ses sentiments, à travers Dumbo.
Est-ce que vous voyez Dumbo comme la somme de ce que vous avez fait jusqu'à présent? Vos thèmes de prédilection s'y recroisent, votre goût pour l'étrange, et visuellement, vous mélangez beaucoup de techniques que vous avez pu développer dans d'autres films.
Oui, une fois qu'on s'identifie dans ces personnages, ils deviennent quelque part une partie de vous-même, et c'est mon sentiment, vraiment. Pour moi, ce sont les mêmes thèmes, mais j'ai eu là la possibilité de les présenter d'une façon différente, et qui ressemble à mon histoire même avec Disney, cette grande famille.
Votre Dumbo est intégralement créé par ordinateur. Quelle était pour vous la plus grosse difficulté, tourner avec un protagoniste absent ou réussir le pari de le rendre numériquement chaplinesque et hyper attendrissant ?
D'abord, pour la première chose, c'était vraiment très étrange. On avait tous ces grands acteurs, des décors. On avait tout sauf le héros. C'était très perturbant. Même d'en parler maintenant, j'ai encore des frissons et ça me gêne de parler de ça, de ce processus. On avait l'idée de ce qu'on voulait faire. Les acteurs sont vraiment très bons à faire semblant. De jouer avec lui. On avait quelqu'un qui faisait semblant d'être l'éléphant et qui les comédiens pouvaient le frapper avec un bâton de temps en temps pour vraiment faire penser qu'il y avait un éléphant. Mais ça, c'était le plus dur. Et puis la deuxième partie de votre question, que c'était plutôt marrant de trouver le bon équilibre. Je ne voulais pas avoir des personnages qui parlent, je ne voulais pas faire parler des animaux, et en même temps je voulais qu'ils aient un côté réel et à la fois humain. Il fallait trouver le bon mélange, l'équilibre qui soit juste, et d'être quand même un conte, et en même temps d'avoir quelque chose de réel dans ce film.
Est-ce que vous avez songé un instant à offrir le rôle de Dumbo à Johnny Depp?
Non. Il a toujours voulu être un acteur de dessin animé, je sais. Il a du talent, mais il y a des limites quand même.
C'est votre quatrième collaboration avec Danny DeVito. Vous êtes fidèle à vos comédiens. On retrouve aussi Michael Keaton, votre Beetlejuice et Batman, Eva Green, que vous aviez dirigée dans Dark Shadows et Miss Peregrine, Alan Arkin, qui avait déjà joué dans Edouard aux mains d'argent. Est-ce que vous auriez, vous aussi, un esprit de troupe, comme au cirque? Est-ce que vous êtes maître loyal dans l'âme?
Ce que vous avez dit là, c'est très important pour ce film, parce que c'est un film qui se passe dans le monde du cirque et de familles qui sont dysfonctionnelles. C'était très particulier pour moi de travailler avec ces gens donc, que vous avez cités. Michael Keaton, ça faisait 20 ans que je ne l'avais pas vu. Je n'avais même pas parlé depuis 20 ans. Et puis je l'ai vu là, c'était comme si on s'était vu la veille. C'était super.
And then Danny DeVito,
je me rends compte qu'il a fait trois films de cirque avec moi, Batman Returns, Big Fish, et ce film-là, donc, c'est la trilogie des films de cirque avec Danny DeVito, et maintenant, elle est complète. Et puis Eva, j'adore travailler avec elle, vous savez, elle a plutôt peur, vraiment, elle a plutôt le vertige, et elle a dû apprendre à faire du trapèze. Donc maintenant, si jamais elle ne veut plus être comédienne, eh bien elle peut maintenant être artiste circassienne, c'est possible. C'était important pour moi d'avoir cette famille un peu étrange et ce sentiment de famille avec moi. C'était vraiment ça l'identité du film pour moi.
Eva Green est un personnage tellement burtonien qu'on a l'impression qu'elle est presque devenue votre muse. Puisqu'il est question de différence dans Dumbo, en quoi est-elle différente des autres actrices à vos yeux ?
Elle est différente, c'est clair. Il y a des gens comme ça que l'on croise et on n'arrive pas vraiment à décrire comment ils sont. Et ça, c'est vraiment les gens les plus particuliers, les gens que l'on ne peut pas décrire facilement. Et moi-même, je n'ai jamais aimé être catégorisé en tant qu'enfant ou même en tant qu'adulte. J'aime pas les étiquettes. C'est une qualité vraiment très particulière qu'elle a, de la décrire, de l'expliquer, de dire à quel point elle est talenteuse. Non, les mots ne fonctionnent pas, et c'est bien.
Et une muse, une inspiratrice ?
Mais je ne sais même pas ce que ça veut dire, ce mot muse. Quand on est à Londres, on dit muse, on pense à une petite maison. Ou un chat, le ronronnement d'un chat. Mais bien sûr. Je dirais ça aussi de toutes les personnes que j'ai croisées. Et j'espère que j'ai la même influence sur eux. C'est un groupe d'artistes. Et on espère de collaborer les uns avec les autres et de s'inspirer.
Mais alors justement, Tim Burton, comment intégrez-vous vos nouveaux venus comme Colin Farrell dans Dumbo? Est-ce qu'ils doivent passer des tests en bizarrerie?
Non, vous savez, ça c'est très très intéressant. J'ai Colin par le passé plusieurs fois et j'ai toujours aimé ce qu'il fait au cinéma. Et il fait des choses très éclectiques, ce qui est aussi quelque chose d'important pour moi. Quand je l'ai rencontré, quand on a travaillé ensemble, j'ai tellement eu du plaisir avec lui. Il apporte quelque chose au personnage. Et quelque part, on avait le sentiment qu'on avait déjà travaillé ensemble. Il avait ce sentiment-là. Et aussi, et il sait aussi monter au cheval. Il sait vraiment monter à cheval et ça, c'est important. Et voilà, ça m'a aidé.
Dans le Dumbo animé, il y a une scène d'ivresse. L'éléphanto buvait du champagne, la scène dite des éléphants roses. Vous, vous en faites tout à fait autre chose dans votre version. Comment est-ce que vous avez abordé cette scène en particulier?
Là encore, le film de Dumbo, d'animation, est un film de son époque. Il est un peu daté. Et comme je voulais amener l'action dans quelque chose de plus réel, je trouvais que l'alcool, c'était un petit peu trop simple. Il était sous, et il voyait des trucs, des images rigolotes. Bon, c'était bien. Mais je voulais quelque chose de plus concret. C'est une scène importante. J'essayais d'intégrer ça vraiment au spectacle de cirque, avec ces bulles qui prennent des formes qui semblent réelles et qui sont, qui représentent un peu le point de vue de Dumbo.
Maintenant que vous êtes rabiboché avec Disney, est-ce que vous pourriez vous laisser tenter par un biopic de Donald? Je pense à je pensais à Donald Trump.
Non, on en a assez vu.
Puisqu'on a parlé de votre extrême fidélité dans le travail, au score de Dumbo, on retrouve le nom de Danny Elfman. C'est votre 17e collaboration, si on a bien compté. Vous lui laissez quartier libre pour mettre en musique vos idées, vos personnages, ou vous lui donnez quelques figures imposées?
C'est des va-et-vient, vous savez. Et je ne me rendais pas compte que ça faisait tellement de fois qu'on a collaboré ensemble. Mais il fait partie de ma famille. On a maintenant une proximité. On a toujours eu une connexion quand même, quelque chose de proche. C'est comme des gens que je connais et que j'aime depuis tant d'années. Il y a une connexion et je ne sais pas pourquoi.
Et alors, comme dans tous les bons films Disney, on finit cette interview en musique avec Baby Mind, la chanson du film, revue et corrigée dans votre version par Arcade Fire. Est-ce que c'est leur côté troupe de cirque qui vous a aussi séduit? Baby Mind, dry your
eyes. Et oui, peut-être que voilà, j'étais en train de regarder le film. De regarder sur la table de montage, d'un coup, quand je voyais toutes ces choses qui brûlent, ces flammes, je me suis dit, tiens, c'est Arcade Fire qui fait. Ils sont tellement protéiformes, ils savent faire tellement de choses. Et là encore, je me suis dit, ce serait super enthousiasmant de travailler avec eux. Cette gentille petite chanson de la transformer.
Merci Tim Burton. Pop break dans ce pop-up spécial pour lancer les Pop News.
Une étrange comédie bientôt sur les écrans. Elle met en scène l'excellent Jesse Eisenberg, vu entre autres dans The Social Network, cette fois dans le rôle d'un comptable timide, très déboussolé après avoir subi une attaque de motard et qui décide de s'inscrire à un cours de karaté. Ça s'appelle The Art of Self-Defense. I'm afraid of other men. They intimidate me. I want to be what intimidates me. I want to be. This question's multiple choice. A, health and fitness. B, career opportunities. C, New Year's resolution. D, self-defense / traumatic experience. What if it's none of the above? Should I read the choices again? No, that's okay. A, health and fitness. The Art of Self-Defense de Riley Stern, ça sort en juin aux États-Unis et chez nous, on attend la date de sortie.
Un grand homme en concert demain à la scène musicale de Boulogne-Billancourt. The World of Hans Zimmer sur scène, ça promet d'être épique à l'instar des BO qu'il a composé de Gladiator à Dark Knight, en passant par Pirates des Caraïbes, Interstellar et Le Roi Lion, entre autres. Mais que les fans qui ne pourront assister à la grand-messe se consolent, bientôt des nouveautés composées par le maître, puisqu'il assurera le score de Dune, revu et corrigé par Denis Villeneuve.
Saurez-vous reconnaître le rejeton de star qui donne de la voix au sein de ce jeune groupe, Inhaler? Indice 1, il est dublinois. Mmh. Indice 2, il s'appelle Elijah. Mmh. Indice 3, il sonne comme ça. Vous l'avez ? Il s'appelle Elijah Hewson, fils de Paul du même nom, soit...
Bono !
Absolument, c'est le fils de Bono. Il y a un air, non, quand même ?
Tout à fait, oui, sur tous les cheveux.
On peut pas ? Antoine de Caunes.
Oui, c'est moi.
Bono ?
Non,
Bono Toljuice ?
Ah,
non.
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 T'es refaire ?
Mais non, là, on dirait Stuart Little. Oh. Ça ne fait pas peur du tout.
Merci Charlie d'avoir d'accueillir Eva Green. Écoutons Will I Get Off Easy. Ben, je ne sais pas justement. Morceau signé Lee Fields and the Expressions. Get off easy, effectivement une bonne question. C'est un morceau du soulman américain Lee Fields que nous recevrons bientôt sans son groupe Les Expressions. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et je le disais en début d'émission, nous sommes également allés à la rencontre, toujours en Tim Burtonie, de l'actrice qui affole les boussoles et fait perdre le nord à James Bond, la troublante Eva Green.
Antoine.
Ah oui, oui, pardon, un moment d'égarement. Eva Green dans Pop Pop Pop, c'est juste après mon pop. Bonjour Eva Green.
Bonjour Monsieur Antoine de Caunes.
Bonjour, je vous présente Charline Roux.
Enchantée.
Bonjour, enchantée.
Voilà, alors pour démarrer, même question qu'à votre vénérable metteur en scène. La première fois que vous avez vu Dumbo, est-ce que vous avez éclaté en sanglots ou bien est-ce que vous vous êtes dit « Waouh, un éléphant qui vole, on m'avait dit que c'était pas possible, on m'aurait donc menti ». C'était quoi votre réaction?
Je me souviens, j'étais très jeune, je devais avoir 4-5 ans, et c'était surtout la relation entre la mère et l'éléphanteau, le fait qu'ils soient séparés, ça m'a fait pleurer, ça m'a beaucoup marqué.
Après des prestations très remarquées chez Bertolucci, Ridley Scott, Robert Rodriguez, dans James Bond, chez Greg Araki ou encore Roman Polanski, pour ne citer que, c'est votre tout premier film Disney. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est une sorte de cure de jouvence post-gravité?
Il y avait quelque chose d'assez clair dans ce personnage, comme une espèce de bulle de champagne, un personnage assez léger par rapport à ce que j'ai joué auparavant. Donc c'était amusant de jouer quelqu'un d'assez clair comme ça, qui a quand même un certain voyage, qui est assez énigmatique au départ, assez froid, et puis quand elle va rencontrer Dumbo, elle va réaliser que sa vie est un peu superficielle, et puis voilà, elle va tout faire pour aider cet éléphant à se libérer, à retrouver sa mère.
Après Dark Shadows et Miss Peregrine, c'est votre troisième film avec Tim Burton. On va donc partir du principe que vous faites désormais partie de sa troupe. Qu'est-ce que son univers a de si particulier pour vous, de si singulier ?
Tim a un univers très étrange, très, très poétique, et il arrive toujours à faire ce mélange entre l'humour et l'émotion.
Et est-ce qu'il vous a expliqué ce qu'il trouvait de singulier chez vous ? Vous en avez parlé.
C'est toujours un peu embarrassant aussi. Je t'ai choisi parce que tu es extrêmement doué, extraordinaire. il est très pudique et puis je sais pas. Mais vous savez, c'est pas le roi des mots non plus. C'est quelqu'un qui parle beaucoup avec ses gestes, un peu comme un chef d'orchestre. Et on arrive à le comprendre vraiment comme ça physiquement. C'est assez étrange, mais en même temps toujours très touchant et très drôle.
Son attachement au personnage étrange, hors norme, bizarre, c'est quelque chose qui vous parle ?
Oui, je pense que tout le monde va s'identifier au personnage de Dumbo. On s'identifie toujours aux âmes vulnérables, aux âmes rejetées. Et il y a quelque chose de très émouvant dans Dumbo, le fait qu'il est ridiculisé à cause de ses très grandes oreilles. Mais en même temps, il en devient beau grâce à ça et il arrive à l'utiliser à son avantage, à voler. Bon, quant à moi, je sais pas, je me suis toujours sentie un peu bizarre. Après, faut que j'aille voir le psy pour ça, je sais pas. Et quelquefois, j'avoue que c'est un peu blessant, mais en tant qu'acteur aussi, on n'a pas envie d'être dans des boîtes. Mais les gens vous mettent dans des boîtes de toute façon. Donc, je pense qu'avec les années, j'ai appris à accepter mon côté gothique. Peut-être je suis gothique, je porte du noir aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça veut dire, gothique. Peut-être qu'il y a un côté romantique, gothique, attiré par la mort, sûrement pas. Je ne sais pas. Mais je pense que je suis beaucoup de choses. Oui, je crois qu'il y a aussi beaucoup de couleurs dans le noir.
Dans Dumbo, vous êtes Colette Marchand, française, acrobate, hyper douée, qui va devoir collaborer avec l'éléphanto. Jouer une as de la voltige quand on est vaguement acrophobe, ça se gère comment ?
Ils m'ont donné un entraîneur et un professeur d'acrobatie. Donc je me suis entraînée pendant 2 mois et demi, 3 mois. Et ça a été assez une révélation, je dois dire. C'est qu'au départ, j'étais terrifiée. Mais il faut déjà, se muscler énormément pour aller là-haut. Donc on se muscle les abdos, on a des bras d'enfer. On a des bleus d'enfer aussi. Les acrobates aiment souffrir. Ce sont des masos. Mais comme on dit en anglais, no pain, no gain. Donc, et il y a quelque chose d'assez magique. C'est-à-dire qu'on souffre, on souffre. Et il y a un jour où on arrive à voler. On arrive à vaincre sa peur. Mais c'est assez incroyable parce que je pensais que j'avais un problème d'oreille interne. J'avais tout un truc dans ma tête. Mais c'est vraiment mental. C'est que j'ai réussi à surmonter ma peur et à faire des choses extraordinaires.
Des contraintes phobiques dont vous venez de nous parler, Eva Green, auxquelles se sont ajoutées des contraintes techniques puisque votre partenaire à grandes oreilles n'était évidemment pas présent. Vous pouvez donc désormais répondre à cette vieille et célèbre question. Est-il plus compliqué de jouer avec des enfants, avec des animaux ou avec des éléphants virtuels ?
La vérité ? Non, je rigole.
La vérité.
C'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat quand on a rien en face avec qui jouer, quand c'est abstrait. Ce qui était assez avantageux là-dessus, c'est qu'on avait un homme qui était dans un costume vert, qui était à quatre pattes. Donc déjà, il y avait quelque chose, il y avait une espèce d'interaction, ce qui est assez précieux. On n'était pas complètement dans le vide. Et après, quand mon personnage vole Dumbo, il y avait comme un espèce de taureau mécanique, comme ça, voilà, qui s'élève dans l'air et vous décollez et vous priez.
Quand nous nous sommes croisés la dernière fois, c'était sur le plateau du Grand Journal, à Cannes, vous m'aviez confié que votre rôle dans la série fantastique Penny Dreadful était jusqu'alors le plus complexe de votre carrière. Aujourd'hui, c'est toujours le cas ?
C'est-à-dire qu'une série comme ça, enfin, j'ai fait ça pendant 3 ans, donc c'est sûr que de vivre avec un personnage qui est assez compliqué, torturé, c'est intense. Après, chaque rôle est un défi, si vous voulez. Par exemple, là, je viens de tourner avec Alice Winocourt, un film français. un rôle d'astronaute, donc aussi un rôle physique, mais aussi un rôle d'une femme moderne qui est tiraillée entre son métier d'astronaute, sa passion, parce qu'elle doit aller maintenant, elle est choisie pour aller travailler dans la station spatiale pendant un an, et sa vie de femme et son enfant. Donc c'est un sujet très moderne comme ça, et voilà.
Colette, votre personnage, est pygmalionné par un entrepreneur redoutable, Vandeveer, un couple qui n'est pas sans rappeler le vieux modèle hollywoodien de la starlette au bras du producteur et autres hommes riches à cigares. C'est de cette esthétique très Howard Hughes que vous vous êtes aussi inspiré pour le personnage de Colette?
Oui, Colette, c'est la star dans l'absolu quand on la rencontre, de ces années 20 comme ça. Tim me parlait surtout, c'est comme une actrice du cinéma muet. Et donc c'est vrai, c'est très Tim Burton, c'est un gros trait quand on la rencontre, beaucoup de maquillage, très théâtral, un peu dramatique avec des perruques comme ça, rouges, des plumes partout, des plumes de paon, enfin bon, c'est assez badaboum. Et oui, mais sur le plateau, j'ai à plusieurs reprises eu parfois l'impression de retourner à l'âge d'or du cinéma, parce qu'il y avait vraiment autour de vous c'était très coloré et tout était là. Il y avait pratiquement pas d'écran vert, ce qui était un vrai luxe.
Les tenues spectaculaires et absolument magnifiques que vous portez dans le film, c'était un vrai plus pour tenir le rôle ou une contrainte supplémentaire pour les numéros de cirque?
Alors bon, Colleen Atwood est un génie. Elle a créé des choses comme ça. Ça fait très Disney d'ailleurs. On a l'impression d'être dans un conte de fées, des grandes traînes. Il manquait plus que la baguette magique. Et puis après, alors quand c'est vraiment quand ça demandait des cascades et quand je devais me tordre, elle a adapté les corsets parce que c'était impossible de se plier en deux.
Eva Green, est-ce qu'on s'achemine vers une quatrième collaboration Tim Burton et Eva Green?
Ça, je sais pas, il faut lui demander, je sais pas. C'est toujours, je me pince toujours quand il, déjà, qui me redemande une troisième fois pour collaborer avec lui, c'est un vrai privilège et un rêve d'enfant. Et puis c'est surtout un être qui est tellement sympathique et touchant.
Mmh. Et vous parlez de la difficulté de tenir un rôle au long cours, sur votre profil professionnel. Il y a une nouvelle série qui vient de s'afficher ou une mini-série, c'est ça?
Oui,
c'est ça. Vous repartez pour plusieurs épisodes.
C'est une mini-série qui s'appelle The Luminaries, les luminaires, je crois en français, de Eleanor Catton. C'est sur la ruée vers l'or en Nouvelle-Zélande au 19e siècle. Je viens de retourner de Nouvelle-Zélande il y a une semaine. Et c'était une aventure assez extraordinaire et très intéressante parce que je ne connaissais pas cette histoire. Et ça ressemble un peu, si vous voulez, aux États-Unis au 19e siècle. Et puis surtout, il y avait très peu de femmes à l'époque en Nouvelle-Zélande. Donc je joue le rôle d'une espèce de une arriviste, un peu Lady Macbeth, une survivante. C'est très intéressant.
Merci Eva.
Merci Antoine.
Merci beaucoup.
Merci.
France Inter. Pop pop pop. Antoine Decaune.
Le Dumbo de Tim Burton, ça sort demain.
Mais vous allez re-respirer normalement là ou pas?
Ouais. Je ne le dis jamais. Qui est là? C'est Roland Gros, le portrait inversé de Dumbo avec ses petites oreilles et sa gigantesque trompe qui met le feu dans les soirées interlopes de la capitale.
Non, on ne peut pas dire ça sur le service public, Antoine.
Bonjour.
Ce n'est pas possible.
Roland Gros, mais je l'ai dit.
Et je ne fais pas le même effet qu'Eva Green, je suis un peu déçu.
Alors aujourd'hui, vous venez nous parler de prothèses dentaires, je crois.
Pas du tout.
Comme avec lui, c'était mes fiches.
Mais non, pas du tout. Chaque jour dans Pop Pop Pop, Antoine, vous posez une question.
Oui, pour vous, c'est quoi la pop culture?
Je fais très très bien,
Antoine. Bien.
Ouais, voilà. Ben moi, je vais vous poser une autre question. C'est quoi la pop culture au présent? Ça ressemble à quoi la pop culture vraiment qui se fait maintenant? Ça ressemble à quoi? Eh ben, je suis venu avec la réponse, avec deux œuvres et trois créateurs. Oh. On va commencer donc par cette fameuse série qui s'appelle The OA, ou pour The OA, pour Antoine Decaune.
The OA.
Créée par Zal Batmanglij et Britt Marling, disponible depuis vendredi la saison 2 sur Netflix, et puis une pièce de théâtre très intéressante de Simon Stone, mais d'abord on voit à quoi ça ressemble The Way.
Homer,
Rachel, Scott et Renata, BBA, les garçons, je t'ai demandé de croire à des choses impossibles à croire. Et pas une fois tu m'as regardé comme si j'étais dingue. Toute cette beauté, cette énergie, qu'est-ce qui la rend cohérente?
Renan, quand vous dites on voit à quoi ça ressemble, on entend surtout.
Ah, vous êtes perspicace.
Mais oui, car nous sommes à la radio.
Ça a fait toute votre carrière,
nous
je pense.
Nous sommes à la radio. Oh.
Effectivement. Alors, vous avez compris à la bande-annonce qu'il s'agissait de croire, qu'il s'agissait de raconter des histoires. La saison première de The OA est sortie il y a quasiment 3 ans. Elle revient pour une partie 2. On ne parle pas de saison, on parle de partie 1, partie 2 et peut-être bientôt la partie 3. Zalbat Manglij et Britt Marling sont un duo américain. Ils se sont rencontrés à la fac, ils ont une trentaine d'années. Et ils sont fabuleux parce que, en fait, ils éclatent toutes les règles de la série télévisée, tous les codes de la série. Je peux même pas vous raconter tant de quoi ça parle. Il faut voir la saison 1 et la saison 2. L'idée, plus ou moins, c'est une expérience de vie après la mort. C'est l'histoire d'une jeune femme qui débarque dans la vie de jeunes gens pour leur raconter des histoires. Ce qui est fascinant, en fait, avec Zalbat Manglij et Britt Marling, c'est qu'ils mélangent tout. Mmh. C'est qu'en fait, ils font de la série télévisée comme ils feraient les Mille et Une Nuits. Et d'ailleurs, ils le revendiquent. C'est-à-dire que pour eux, la série doit être les Mille et Une Nuits. On doit raconter des histoires aux gens et se questionner sur le pouvoir des histoires. Mais ce qui les amuse aussi, c'est de passer dans des univers parallèles, de mettre du film noir, du mélodrame, des arbres qui parlent, par exemple. C'est complètement dingue, c'est complètement fou. Et surtout, ça marche complètement sur la croyance du spectateur. Alors, les cyniques, les cartésiens vont détester ça. Mais justement, ce qui est beau, c'est que ceux qui aiment la fiction avec un grand F, eh ben, tout d'un coup, vont se jeter dans une espèce de fleuve total, complètement délirant. Vous n'allez pas en croire vos yeux.
C'est Alain Chabat qui nous l'avait cité dans sa pop liste.
Il a très bon goût, Alain Chabat.
Et Tim Burton devrait adorer.
Tim Burton devrait adorer. Alors, contrairement à Tim Burton, eux sont très réalistes. Ça se passe à San Francisco, il y a un côté très contemporain, très technologique. Il est question notamment d'applications magiques qui vous font rentrer dans des mondes mystérieux. C'est complètement fou à regarder. Mais je vous disais en début de chronique que j'allais lier ça avec une pièce de théâtre parce que en ce moment, à Paris, il y a un metteur en scène génial qui s'appelle Simon Stone, qui est le petit génie suisso-australien. Il est suisse et australien.
Oui, on avait compris.
On sait jamais. Qui monte en fait la trilogie de la vengeance, son spectacle aux Ateliers Berthier à Paris. Et c'est la même idée en fait. Lui, par exemple, il a une idée, Simon Stone, il dit le théâtre doit être à la hauteur de HBO. Si ça, c'est pas pop comme formulation, alors il prend Shakespeare, il prend Lope de Vega, il prend John Ford, Thomas Middleton, et il crée une sorte de sitcom complètement dingue, de soap-opéra complètement fou, dans lequel, en fait, il parle de la misogynie et de la violence. C'est avec Adèle Exarchopoulos, Valeria Bruni Tedeschi, Nathalie Richard, Eye Edara, et plein d'actrices formidables, et un homme au milieu, Eric Caravaca. Sauf que, en fait, si je vous dis ça, c'est pas très sexy, c'est une pièce de théâtre. Non, parce que Simon Stone, comme Zalbat Manglij et Britt Marling, il a inventé des concepts, il a inventé une manière de faire du storytelling. Quand vous irez voir la trilogie de la vengeance, vous ne verrez pas tous le même spectacle. Vous verrez, vous serez dispatché en plusieurs groupes, vous serez obligé de voir une version de l'histoire. Parfois, vous verrez d'autres versions de l'histoire et vous serez obligé d'en discuter les uns avec les autres. C'est exactement ce qui se passe avec The OA, c'est exactement ce qui se passe avec la trilogie de la vengeance. La vraie pop culture, c'est celle qui permet d'en discuter après.
Et c'est une pièce qui est l'équivalent d'une saison de télé puisqu'elle dure 4 heures, je crois.
Bah non, mais ça dure plus de 8 heures, hein, The OA, Antoine. 4 heures, c'est une demi-saison. Effectivement, il y a quelque chose, un rapport avec la série télé. Vous verrez 3 épisodes, mais qui n'en forment qu'un, peut-être plusieurs. Je peux pas trop vous en dire. Allez voir la trilogie de la vengeance de Simon Stone. C'est complètement dingue. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Et découvrez The OA sur Netflix.
Renan, vous avez éveillé notre curiosité.
Ouais, bah, c'est mon métier. Vous
étions captivés, là, pour une fois, sans cette envie de vous interrompre constamment.
C'est vrai.
Bravo, nous allons aller voir cela. Merci. Bah,
Renan. Bien urbain.
Attendez, on papote, mais il est l'heure pour moi de descendre à la cave, là, chercher le dernier vinyle de l'émission. Allez, j'y vais de ce pas.
Viens, ça y est.
Et vous êtes qui, vous? Ah, Edouard Romain d'Argent. Écoutez, comme vous êtes là, rendez-vous utile, passez-moi le vinyle qui est juste derrière vous, là. Tiens, prenez le McCartney, say, le vinyle bleu, là. Ah non, attendez, non, mais il est foutu, mon vinyle, là, mais il me l'a coupé, ce con-là. Bon, attendez, bougez pas, Edouard, là, je vais en mettre un autre. Tiens, on va prendre, Jenny Rain, voilà. Touchez pas. Non, ne touchez pas, je m'en occupe. En revanche, si vous êtes mélomane, je peux vous donner un vinyle de Zaz ou de Vianney, hein, il y en a plein de couloirs ici.
Like so many girls, Jenny Wren could sing, but a broken heart took a song away. Like the other girls, Jenny Wren took wing, she could see the world. Ways. How we spend our days can Breaking up a home, wounded warriors took a song away.
McCartney, Jenny Rain, pour terminer ce pop-up-up special. C'était dans Chaos and Creation in the Backyard, si mes souvenirs sont bons. Merci à tous, merci à Eva Green et à Tim Burton, et merci à l'équipe de Pop-up-up, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Patrick Henry et son bracelet électronique, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet et Simon Arestat, à nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Alice Delcourt, notre stagiaire. Demain dans Pop-up-up, Alexandra Lamy. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuve ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt comme dit Edouard aux mains d'argent à la fin de ses tutos épilation sur YouTube. Voilà,
dangereux.
Abonnez-vous à notre podcast. Et suivez-nous sur les internets, hein, comme disent les milléniaux, le 3615 Pop-up-up sur Instagram et Twitter.